Nerd Podcast, épisode 279. URL Quiteris Paribus Sextantibus. Enregistré le 20 mai 2022. Bonjour et bienvenue au Cascodeur, épisode, si je ne me trompe, 279, un épisode news
en collectif, petit comité.
Collectif, mais le minimum viable collectif.
Emmanuel et Guillaume
qui sommes là. Évidemment Antonio, mais il s'est fait prendre par la complexité de l'informatique, apparemment.
Il avait dit que ça avait à voir avec Quarkus, hein, quand même. Je dis ça, je dis rien, mais bon.
Il a dit que c'était Azure aussi, donc.
Et Azure, et Azure.
La partie marche
c'est
pas.
Vrai, c'est vrai, on sait pas.
Voilà. Donc, et ben, c'est nous deux. Alors, c'est pas les news les plus fraîches de l'univers, pour être très honnête, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu lutté à mettre en place là depuis quelques semaines.
De trouver le moment. Trouver le bon moment, etc. Enregistrer.
Ouais, mais on espère que ça sera quand même utile pour vous. Vu qu'on a des petits problèmes de routine en fait en ce moment, qu'il faut une solution. Hein. Alors, on va commencer comme d'habitude par les langages et puis, alors vous savez, on en parle régulièrement, mais il y a une étude en fait de New Relic sur l'état de Java qui s'appuie. À quoi c'est du, je sais plus si c'est une demande aux gens ou si c'est sur les informations qu'ils récupèrent de leur
client. Je crois que c'était par rapport, effectivement. Alors, j'ai pas vérifié s'ils le disent dans l'article, mais il me semble que c'est par rapport aux statistiques qu'ils ont à l'intérieur de ce qu'ils monitorent avec New Relic, de mémoire.
D'accord. Et donc, New Relic, ça fait quoi déjà?
New Relic, donc ils font, c'est des outils d'observabilité, monitoring, etc., que tu peux mettre dans ton infrastructure, tes applications, etc.
Ouais. Alors déjà, ce qu'ils voient, c'est que ça y est, Java 8 n'est plus majoritaire. Commence enfin à être utilisé plus. Java 11, du coup, est utilisé plus en prod que Java 8. Alors, c'est du 48-46%, hein, on parle.
C'est chaud.
Ouais,
on c'est parle encore plus chaud que les élections présidentielles. Hein.
Américaines en tout cas. C'est toujours chaud le bouillon.
Chaud patate.
Bon, mais par contre, évidemment, les applications Java 8, elles n'ont pas disparu. Elles ont tendance à avoir une longue queue, comme on dit, de vie. Du coup, voilà, ça va descendre que graduellement quand les équipes passent à d'autres choses. Et justement,
Non, après, on voit que même le LTS suivant, qui est 17, il n'y a quand même vraiment pas grand-chose en 17, quoi. C'est
absolument.
Assez ridicule.
Absolument.
Donc, en tout cas, on voit que le système de LTS fonctionne, dans ce sens que en production, tu as tendance à aller plus vers du LTS que les versions intermédiaires pour bénéficier des dernières petites améliorations ou nouvelles fonctionnalités du langage. Mais ce qui est pas, c'est pas déconnant. Hein, ouais. je trouve ça normal.
Et du coup, dans les versions non LTS, il y en a, mais c'est vraiment petit. Hein, on parle de 48% pour Java 11. Là, on parle de 2,7% pour les non LTS en prod. Et c'est Java 14 qui a l'air d'être celle avec le plus de succès, entre guillemets.
Ouais.
voilà. Et ça, on l'avait déjà vu. Alors, c'est peut-être un artefact artificiel de la façon dont New Relic ou les clients New Relic. Mais après la distribution Oracle, la distribution AWS qui est pas mal utilisée, qui a vraiment explosé en fait. Et plus que Adoptium, je crois, qui est la version d'Eclipse où... Alors, peut-être que moi aussi, je suis biaisé, mais du coup, on utilise beaucoup Adoptium, on s'appuie dessus. Enfin, Red Hat, c'est une variation d'Adoptium, comme beaucoup d'ailleurs. Alors, Amazon, très probablement, ils partent de là.
Je crois qu'ils sont partis de là, si je dis pas de bêtises. Après, pourquoi est-ce que les gens utilisent Coreto d'AWS? Mon intuition, c'est que y a pas mal quand même de workload qui tourne sur AWS en Java. Et du coup, ils se disent, écoute, moi, je vais utiliser la même version que ce qui est dans le cloud chez AWS, j'imagine. C'est quoi ton avis?
Ben, je sais pas, en fait, je sais pas. Ça a du sens ce que tu dis si quelque part Amazon a des chemins qui guident à utiliser ça par défaut parce que c'est plus simple, ouais. Tu vois. Je vois pas ça naturellement arriver sans un effet de push, ouais. En fait. Du coup, c'est assez c'est curieux.
Ouais.
Après, je sais que le nom explicite de la distribution, c'est un truc qui est pas toujours fait par toutes les distributions, etc. Donc, il y a aussi des biais même dans la collecte de l'information à la source.
Ce qu'il faudrait, à l'occasion, ce serait amusant de demander à SDKman, là, par exemple, c'est quoi leur stat à eux, parce qu'ils proposent aussi toutes les versions et tous les providers de JDK, et voir quelles stats ils ont d'utilisation. Parce que là, tu vois, même...
presque tout, je crois que sur M1, par exemple, c'est un peu à la traîne, au sens Apple Silicon.
L'Apple Silicon, ouais. Et par exemple, tu vois, aussi pour les versions, j'ai discuté avec un de mes collègues, par exemple, sur le bon vieux App Engine, tu vois, Java 8, enfin là, je reviens sur les versions, hein, plutôt que les providers, mais Java 8 reste encore majoritaire, alors qu'il y a Java 11, Java 17, même s'il n'est pas sorti officiellement, il est en preview, il y a encore beaucoup, beaucoup de... Enfin, suivant les plateformes, on n'est pas encore, encore loin de...
Ouais, parce que vous n'avez pas d'outils de migration automatique ou semi-automatisé aux gens ou qui pourraient essayer facilement.
Bah oui et non, parce qu'en fait, alors en tout cas, au moins pour Java, enfin, je dirais même, ça remonte à encore au-delà. App Engine Java, je crois, avait commencé avec Java 5, si je dis pas de bêtises, ou 6. Et ils ont migré automatiquement 5, 6, 7, 8. Après, entre 8 et 11, il y a quand même des choses qui cassent. Ouais. Donc on n'a pas fait, je crois, la migration
après, voilà. Java 9 en l'occurrence,
Java 9 avec des choses GPMS comme d'habitude. Et voilà, et après du coup comment tu, enfin vu que tu casses, tu peux pas dire bon mes clients je vais les migrer automatiquement bon bah si ça casse faudra bien qu'ils
corrigent. Non mais tu pourras avoir un one click trial, tu vois, on peut Bon, en tout cas, pour revenir à l'étude New Relic, beaucoup d'utilisation de Java dans les containers, 70% quand même, des gens, alors c'est la somme est plus que 100%, hein, mais donc il y a un déploiement quand même massif dans les containers, et il y a, enfin, parmi les gens dans les containers, je crois, il y a 70% qui ont un seul core. Donc c'est un déploiement au sens voilà microservice un peu isolé et du coup ça change complètement enfin historiquement la JVM c'est on va utiliser le plus la ressource entière possible de la machine avec des grosses machines qui étaient des multi-cœurs 4 cœurs sûrement à l'époque des choses comme ça mais la notion de un seul cœur ça change fondamentalement la mise du parallélisme et surtout du garbage collector en fait. Est-ce qu'il peut avoir un processeur dédié, un cœur dédié ou pas? Et du coup, G1, voilà, qui travaille au parallélisme de faire tourner plusieurs morceaux du garbage collector en parallèle, ben, il n'y a pas d'avantage avec un seul corps par rapport à, il y a moins d'avantages à G1 par rapport à du bon classique, comment il s'appelle, je l'oublie là, mais c'est pas.
Ouais.
Et puis, pareil, toujours dans les containers, c'est très consistant. Les applications Java tournent souvent avec moins de 1,5 gig de RAM, donc 512 de RAM, 45%.
Voilà. Ouais. Bon, après, il y a pas mal d'applications qui arrivent à tourner avec cette quantité de RAM, quoi.
Oui, alors attention, c'est pas la HIP, hein. On parle bien de la RAM totale, c'est-à-dire ce que consomme la JVM, plus tes caches, tes pages de cache système, plus la HIP, du coup.
Ouais, ouais.
Donc,
des petits microservices.
Donc, vive des Micronautes et des Quarkus qui justement travaillent à ces choses-là.
On vous donne plus de mémoire.
On vous rend plus de mémoire.
Libérons la mémoire.
Exactement. Un autre nouveauté dans l'univers Java, c'est les string templates. Et donc ça, c'est cool. Et attention, parce que log4shell, ça vient d'une interprétation de chaîne de caractères qui a mal tourné. Donc il faut bien regarder, mais ils ont pas mal étudié le cas. Donc c'est une JEP. Et donc l'idée, c'est de remplacer certains usages de string builder ou de string format et de message format. Après, il y a plein de langages qui offrent ça. Hein. donc JavaScript, etc., etc. Juste pour la blague, j'ai dit que bash aussi, juste cette interpolation.
Tu fais du bashing.
Du bashing, ouais. Et donc, voilà, quand on veut écrire, alors quand on rajoute ça aux multilignes qu'on a depuis une des versions récentes, eh ben, on peut quand même écrire l'HTML sous forme d'un template, interpréter certains morceaux. Aujourd'hui, on a des moteurs d'interprétation qui sont externes au langage. Et ils veulent permettre du coup des règles de transformation et de validation. Par exemple, la règle de transformation HTML qui va faire l'échappement de caractères, voilà. Si c'est du JSON, peut-être valider, peut-être un format. Enfin, il y a plein d'options potentielles intéressantes. Et ils disent que ça peut même éviter le passage par les. Ah oui, c'est moi qui le dis. Ça peut même éviter le passage par le parseur. C'est-à-dire qu'au lieu de dire j'ai une chaîne de caractères plates que du coup mon parseur va interpréter pour savoir qu'il y a tel, tel et tel champ. Si on sait que c'est forcément ce morceau-là avec nom, prénom, adresse et tout ensemble, techniquement, on peut construire l'objet JSON directement avec l'outil d'interpolation, en fait. Voilà. Donc il y a un objet template qui a le template lui-même, et après il y a la policy qui est je suis un template de HTML et du coup applique ses règles HTML. Voilà, on peut mettre quelles sont les expressions qu'on peut embarquer dedans. Alors, comme vous avez remarqué, on est un podcast audio, c'est hyper dur d'exprimer un string template. Donc allez voir, allez cliquer sur les liens, ça sera beaucoup plus parlant et visuel, évidemment. Visuel et donc parlant. Ah, c'est beau, c'est de la poésie qu'on fait. Mais en tout cas, les expressions qu'on peut mettre dans ce qui sera dans les variables
interpolées,
les parties interpolées, c'est des chaînes de caractères, évidemment, des opérations arithmétiques, de l'invocation de méthodes, de l'appel de champ, voilà, pas besoin d'échapper les doubles guillemets, voilà, des petites choses qui sont, c'est vrai, pénibles, en fait, quand on travaille en Java et avec les chaînes de caractères.
Ce qui est amusant aussi, ouais. C'est que, enfin, à moins que c'était peut-être ce que tu voulais dire. Donc, en fait, il y a des string templates par défaut. Il y en a deux ou trois, je sais plus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est donc on va pouvoir créer ses propres string templates, par exemple, en faire un pour l'interpolation quand on crée des requêtes SQL et éviter justement l'injection SQL, des problèmes comme ça. Mais ce que je voulais noter en particulier, c'était y a quand même un bout de syntaxe en quelque sorte d'introduit, c'est-à-dire que ça va être le nom de cette classe qui gère les string templates, point, donc par exemple str, un de ceux qui est intégré, str, point, et la chaîne de caractères tout accolé, ce qui est aussi une nouvelle syntaxe. J'avais trouvé ça amusant, je me suis dit, c'est quoi la syntaxe là? Et visuellement, oui, ça fait, encore une fois, c'est pas un podcast visuel, on est d'accord, mais str, point, ouvrez les guillemets, et après tu mets le contenu que tu veux passer dans ton template.
Ouais.
Et après, dans la partie escapé, c'est backslash, dollar, et des curly braces ou c'est des... attends, je vérifie que je dis pas...
C'est oui, c'est ça.
Backslash et accolade, le nom, enfin ou l'expression, et accolade fermante.
Ouais. Et la raison pour laquelle c'est str. Point, ouais. C'était pour vraiment différencier une chaîne de caractères qui n'est pas interpolée d'une chaîne de caractères qui est interpolée visuellement et conceptuellement pour l'utilisateur et du coup et aussi pour le compilateur. C'était parce qu'en fait, si on se dit celle-là elle est interpolée, celle-là elle est pas interpolée, que c'est confus, et ben c'est là où on peut avoir des trous de sécurité par utilisation et par inadvertance.
Ouais.
Donc en fait, on pourra utiliser accolade dans une chaîne non interpolée, ça va rester littéralement backslash accolade. Voilà, on n'a pas ce problème d'interpolation.
Il y a l'autre truc aussi un petit peu bizarre, et du coup, j'ai pas compris comment on extrayait après le résultat, c'est que quand tu fais quand tu as, on va dire le, ou alors attends, c'est ça qui était pas clair, c'est dans efficient template policies. Où il parle du fait que quand tu fais un toString sur ton objet de template, ton template instancié, en fait, t'as pas le truc interpolé.
T'as le pattern, c'est ce que tu dis.
Ouais. Pipe et les valeurs. Enfin, j'avais trouvé ça assez bizarre. Enfin, je peux comprendre pourquoi. mais c'est assez bizarre. Après, je sais pas dans quel état est
la représentation qu'ils utilisent en fait. Mais c'est pour vraiment montrer que c'est un template, c'est-à-dire
c'est
qu'il y a.
C'est pas une chaîne.
Voilà, il y a la chaîne avec ses trous.
Ouais.
Vides, et après, il y a la liste séquentielle des valeurs, mais qui sont affichées derrière en fait.
Voilà. Ouais.
Un autre truc que je voulais mentionner, c'est que j'ai l'impression que ça peut capturer les variables locales. Donc, on peut capturer les variables locales dans parmi les choses qui se peuvent appeler. Du coup, je crois, pour le coup, ça, c'est sans l'avis du développeur. Et du coup, je suis pas hyper clair sur est-ce que ça dépend de là où c'est créé, ça dépend, est-ce que le template, quand il est transporté, ça change. Du coup, là, il y a peut-être des risques. Où il y en a peut-être pas, mais en tout cas, moi, j'ai pas tout compris là, des risques de capture par inadvertance, en fait.
D'accord.
Comme on a pu voir dans Log4j.
Ouais.
Voilà. Bon, après, nous ne sommes pas experts, donc tout ce qu'on dit est probablement faux, mais ça vous permet de réfléchir au problème. Voilà. Sinon, il y a un super article. Il est super, hein. Mais
on l'a pas lu.
On l'a pas lu. Il y a un article extrêmement détaillé sur ce qui est nouveau dans le garbage collector dans Java 18. Donc, vous voyez bien que c'est les modifications entre le dernier JDK et Java 18 sur le garbage collector entre G1, le Parallel et le Serial GC. C'est ça que je cherchais.
Ah, Serial GC, oui.
Voilà. Ouais. Et donc, il est bien, il est un peu long et
c'est peut-être parce qu'il est un peu long qu'on l'a pas lu.
Voilà. Donc, mais si c'est des choses qui vous intéressent, on laissera le lien dans les show notes, mais on va pas en parler. Voilà. Parce que on l'a
enfin,
pas
long,
lu.
Il est pas, ouais, il est pas non plus si long. Pas, exagère.
Maintenant que je le regarde, il est pas si long que ça, mais il me paraissait extrêmement long au moment où j'ai vu l'article et j'avais pas vraiment la bande passante pour aller.
Non,
et
puis il y a, enfin, toujours des belles analyses avec des beaux graphes et tout ça expliquant avant, après, etc. Donc, à voir.
Ouais. Bon. Ok. Sinon, bah, du coup, au niveau Quarkus, on a eu la 2.8 et la 2.9 depuis la dernière fois où on l'a présenté. Dans la 2.8, alors juste un petit détail, Serge est sorti du BOM, du coup, si vous voulez réintégrer et expliciter ça. Le reste, l'étage reste, l'implémentation reste, maintenant on utilise REST Easy Reactive, même si vous pouvez continuer à travailler en bloquant, il n'y a pas de souci, mais en dessous, c'est un moteur plus efficace, donc maintenant, c'est celui qui est par défaut. GraalVM 22 qui est arrivé, avec son support, le support des Proof of Key of Code Exchange, PKCE, dans OIDC. Finalement, des transactions, une API Quarkus Transaction, qui était demandée, ces choses ont... C'est vrai que c'est un combat de multi-décennal avec Gavin pour essayer de pas avoir à amener ces API, mais bon, au final, il y a toujours des cas où c'est utile, mais c'est vrai qu'on essaie de se battre pour pas les avoir. Bon, là, ça y est, on a fini par perdre. Nice. Et puis, il y a un dev service, donc le pouvoir développer, avoir ses dépendances qui sont téléchargées avec test container, etc. pour Elasticsearch. Ça, c'était la 2.8. Et sur la 2.9, mise à jour au niveau des langages, donc Kotlin et Scala. Il y a le support de la Schema Registry Confluent et du coup celle qui est autour de API Curio parce que c'est les mêmes API et puis la compression pour les routes réactives et REST Easy Reactive, donc ça c'est au niveau web, et puis le support de WebAuthn. Voilà pour les librairies, et là nous allons faire un saut de catégorie, nous allons passer à l'outillage. Est-ce que tu as regardé ça?
Ouais, alors il faudra qu'on corrige les show notes parce qu'on a mis un nouveau compilateur avec du code plus lisible, mais c'est un nouveau décompilateur.
Absolument, je vais faire comme ça de ce pas pendant que tu parles.
T'as les épilateurs, les dépilateurs, et bah, là c'est un décompilateur qui enlève les poils. Et
il n'y a pas l'épilateur.
Non, je confonds tout. Tu vois, j'ai encore des trucs à apprendre. Alors en fait. Donc,
ah, mais j'ai écrit deux compilateurs, mais en fait c'était.
Ah, un nouveau décompilateur, d'accord. Parce que sur le coup, je m'étais dit, IntelliJ, c'est un compilateur.
Mais ouais, quand tu tapes
et
sur.
Et après
les...
Minecraft aussi, et je suis là, je me dis, mais attends, pourquoi ils ont des compilateurs? Enfin, encore JetBrains, pourquoi pas, mais. Et donc, il y a une nouvelle. Donc, alors, comment il s'appelle du coup le
Kilt Flower.
Kilt, Kiltflower et qui est basé quand même sur des versions précédentes, Fernflower de JetBrains.
Ouais.
Et donc quand on utilise, des fois c'est utile hein, quand on est dans IntelliJ, on utilise une librairie, mais alors, peut-être qu'elle est open source ou pas, hein, mais on veut savoir ce qui se passe parce qu'on comprend pas très bien le fonctionnement d'une méthode ou autre. Ben, c'est vrai qu'il y a un décompilateur intégré qui faisait du code quand même relativement propre, mais on va dire du code à la Java 8 moins moins.
Et oui, c'est ça. Ils n'avaient pas travaillé les sucres syntaxiques nouveaux qui sont arrivés depuis.
Ouais. Donc du coup, là, ce nouveau décompilateur, bah par exemple, si on fait des try catch with resources, qui est finalement, c'est juste une amélioration syntaxique, mais derrière, ça fait des bons vieux try catch et des finally, des choses comme ça, avec un autre try catch à l'intérieur du catch ou du finally, je sais plus. Donc c'est juste une manière, enfin, par défaut, les vieux décompilateurs faisaient cette espèce de try catch imbriqué un peu compliqué. Alors que là, aujourd'hui, ben, on a ce décompilateur-là est capable d'analyser un petit peu ce pattern d'utilisation de try-catch et de se dire, ah, bah oui, mais ça, c'est un try-catch with resources. Et du coup, on retrouve la vraie structure avec une version récente, un style récent, en tout cas, de Java.
Et ce qui est rigolo, c'est que c'est pas forcément la vraie, parce que la vraie, ça serait le code source que le gars a écrit.
Ouais.
Mais en fait, il y a des exemples, il donne un certain nombre d'exemples, hein, notamment au niveau des switches où le gars l'a écrit un peu à l'ancienne.
Ouais.
Le compilateur Fernflower fait un truc un peu plus caca, mais bon, avec des var 10 000, par exemple, donc pas très beau. Et Quillflower utilise la nouvelle syntaxe, donc quelque part, il fait encore mieux que le développeur original. Voilà, c'est ça.
Avec les flèches dans les breaks, etc. Donc c'est vrai que c'est mieux, c'est plus joli.
Ouais. Et l'autre qui est intéressant, c'est un peu, vous l'avez sûrement vu si vous avez fait de la décompilation, c'est que des fois les doubles, on sait que c'est genre 0,2 qu'on a mis, mais en fait on a 0,2000982.
Ouais.
Et du coup voilà, ça permet de le corriger.
Ouais.
Enfin, de trouver, en fait, il doit avoir des heuristiques pour trouver les bonnes.
Oui, certainement. Il doit arriver à reconnaître logiques, des patterns. Puis même des choses assez simples, tu vois, comme les boucles while.
Ou les for each.
C'est vrai que ça générait quand même quelque chose d'enfin pas très lisible et compréhensible. Alors qu'au final, l'instruction initiale et celle que lui génère sont beaucoup plus, enfin en tout cas par rapport à l'intention au code source initial et à ce que lui a décompilé, c'est effectivement la même chose et ça rajoute pas de la complexité à cause de tout cette espèce de code généré traduit un peu mot à mot de ce qu'il y a dans le bytecode quoi. Parce que c'est vraiment deux choses. Hein. C'est ça qui est amusant je trouve en Java, c'est qu'entre ce que tu écris dans le langage et ce que tu as dans le bytecode est quand même vachement. Enfin bon, c'est logique qu'il soit plus bas niveau hein, le bytecode, mais je sais pas comment dire autrement, mais c'est plus bas niveau et t'as pas cette structure de haut niveau avec laquelle toi tu penses et aussi la manière dont le langage a été designé au niveau de sa syntaxe.
Voilà. Et du coup, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau du bytecode, il y a des choses plus verbeuses en nombre d'opérations, en fait, qui sont sur des syntaxes de plus haut niveau, plus compactes dans les langages. Et du coup, c'est aussi pour ça que à un moment, on a vu ce travail au niveau du compilateur Java, je crois que notamment GraalVM aussi, sur on était super fort à compiler les idiomes Java au sens langage, mais Scala n'utilisait pas toujours les mêmes approches. Et du coup, les optimisations n'avaient pas été faites pour ces autres langages, quoi, Java, etc.
Et je me rappelle aussi, dans Groovy, on essayait de un petit peu comprendre quelles étaient les optimisations qu'ils pouvaient faire pour avoir la performance qu'on imagine que ce qu'on a fait devrait avoir par rapport à ce que Java aurait optimisé. Et c'est pas toujours... c'est pas évident, en tout cas. Et puis, suivant, tu sais, le profil, si tu désoptimises, etc. Et des fois, c'était super difficile de vraiment mesurer et d'avoir des benches pour vraiment comprendre ce qui se passait derrière. Donc, la reproductibilité était un peu compliquée.
On va passer à la sécurité.
C'est là que je pars.
Pourtant, il y en a plein, c'est la moitié de l'épisode. On a une... Alors, je ne sais pas que vous avez patché depuis, mais il y a une vulnérabilité dans Struts 2 qui est encore de l'interprétation. Ça, c'est un grand classique. Et c'est lié, je crois que dans les tags, à une double interprétation des, de l'interpolation, donc du pourcentage accolade. En fait, du coup, si quelqu'un écrivait dans la chaîne qui est envoyée, donc l'utilisateur envoyait un post sur un formulaire, par exemple, avec quelque chose qui, dans la chaîne de caractères, avait cette interpolation, il était possible qu'elle ait été interprétée deux fois, et du coup, cette valeur-là de l'utilisateur était interprétée, et du coup, c'est la clé ouverte, c'est la même approche avec Log4j, c'est ça qui était envoyé, des chaînes qui étaient interpolables alors qu'elles n'auraient pas dû l'être.
Et est-ce que c'est récursif et à plusieurs niveaux, tu vois, la double ou triple évaluation?
Alors, visiblement, c'était que deux. Je t'avoue que j'ai pas regardé le patch. Voilà. Mais c'est effectivement un des problèmes. Ouais. Mm-hmm. Nous, on aime bien toujours le récursif parce que c'est plus, ça marche mieux, plus générique, etc. Ouais. Mais bon, ça a des impacts assez forts.
Je suis curieux de voir quel est le pourcentage, enfin, j'espère que c'est moins d'un pourcent, le pourcentage d'applications Struts 2 encore en liberté. Parce que c'est vieux, ça, quand même.
C'est une bonne question. Ben,
après, ouais, Apache continue de réaliser.
Oui, il est actif.
Apache Struts continue. Ah, le projet est toujours actif. Il sort de... Alors, ouais. Ça ne va pas être des méga nouvelles fonctionnalités, mais il est en mode maintenance active.
Ouais.
Je veux dire, c'est qu'il y a forcément des gens qui continuent de l'utiliser et de mettre à jour leurs applications Struts 2.
Donc, autre problème de sécurité, si vous utilisez Java 15, 16, 17, 18, j'espère que vous avez mis à jour quelque part en fin mars ou début avril, notamment si vous utilisez des choses comme le Java Web Token, JavaScript Web Token, SAML, les ID Token IODC, Web OAuthN dont on parlait avant. Parce qu'en fait, toutes ces technologies, elles utilisent des signatures qui utilisent les courbes elliptiques, donc les fameux ECDSA, Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, qui est en gros un RS. Enfin, c'est conceptuellement, ça fait le même boulot que RSA, mais ça s'appuie sur des courbes elliptiques qui, du coup, pour la même sécurité, sont beaucoup plus compactes, en fait. Donc, c'est vrai qu'elles sont très, très à la mode pour tous les approches modernes, plutôt que RSA qui vieillit doucement. Et il y a eu un bug, on va en parler un petit peu après, mais en gros, ça affecte les fameuses versions de OpenJDK 15, 17, 18. Alors, le 16, il est plus maintenu, donc c'est pour ça qu'il n'est pas dedans. Et attention, il y a certains vendeurs, notamment Oracle, qui ont fait des backports de ces supports-là. Et du coup, si vous utilisez Oracle, Java 7, 8, 11, 15, 16, 17, 18, qui sont vulnérables et donc sur lesquels vous devez patcher. Et en fait, ça vient d'un... Enfin, le chercheur de sécurité a utilisé une analogie, donc il a appelé ça le psychic paper dans Doctor Who. Donc, je ne sais pas si pour ceux qui connaissent la...
Je ne connais pas.
Ah, il faut absolument que tu regardes Doctor Who, quoi. C'est... je ne sais plus sur quelle plateforme de streaming il est, mais il est quelque part. Et donc, dans le Doctor Who, il arrive toujours et il montre un papier, en fait, des papiers d'identité blancs. Et en fait, il dit, en fait, c'est un papier psychique qui fait penser à l'autre que c'est le bon papier. Par exemple, c'est le papier de représentant de la police, représentant des impôts, peu importe. Et donc là, c'est la même chose. En fait, on peut construire, en fait, on peut signer numériquement quelque chose sans avoir les bonnes informations. On peut construire, en fait, des choses signées qui vont être valides du point de vue de l'algorithme. Parce qu'en fait, les paramètres de la courbe peuvent être mis à zéro. Et quand on met les paramètres de la courbe, donc les paramètres de la courbe, c'est ceux qui permettent de décider de la courbe qu'on utilise pour le fameux algorithme. Et à zéro, en gros, ça valide tous les messages. C'est toujours c'est une yes card, en gros. Voilà. Donc, il y a eu un bug là-dessus où, dans l'algorithme, il faut exclure, en fait, l'usage 0-0 parce que c'est une erreur. Je dis 0-0, mais je suis pas entièrement sûr qu'il y ait deux paramètres. Il me semble que oui, mais ça vient d'un long souvenir. Voilà. Du coup, ben, regardez si vos frameworks utilisent ça. Donc, il y a, Par exemple, Quarkus, ils ont fait un petit, on a fait un petit, petite explication. Donc, Quarkus en lui-même n'est pas vulnérable, mais par contre, si vous utilisez les JWT tokens, etc., ça peut vous affecter et du coup, mettez à jour. Tout simplement, c'est assez facile de mettre à jour le JDK. Voilà. Alors, ça date, mais on n'était pas là, on vous en a pas parlé, mais il y a Spring4Shell qui vient de Log4Shell. Enfin, plutôt qui a été utilisé avec inspiré d'une, en termes de nom. Et puis, c'est là encore une code d'exécution à distance. Donc, à l'époque, voilà, on n'était pas entièrement sûr de la largeur de l'impact. Donc, ça devait être facile du 9.8. Hein, en général, c'est l'aire de sécurité, ça monte haut comme ça. Et c'était lié à Spring MVC, Spring Web Flux, enfin toute la partie web. Et c'était notamment quand on utilisait Tomcat. Alors, c'est pas forcément les usages principaux de Spring Boot, mais si on utilisait Spring ou Spring Boot avec Tomcat, c'est là où on avait un risque. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a longtemps, ils avaient eu cette faille de sécurité qui est pareil, une interprétation, un moyen de passer un appel de méthode à partir de l'information de l'utilisateur. Il passe en gros avec une interpolation, un appel de méthode qui, du coup, est exécuté en tant que en chaînage d'appel de méthode plutôt que d'être traité différemment. Mmh. Et donc, en général, c'est hyper pratique parce qu'on peut dire, bah, tiens, j'appelle telle valeur de bin, telle valeur de getter, etc. Donc, ça a un usage particulier. Mais si on le laisse libre, on peut faire un get class, get class loader, et puis envoyer une classe qui est chargée en mémoire et qui, en chargeant, fait des appels. Voilà. Et donc, là, c'est la fête. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Donc, ils avaient corrigé ça il y a longtemps. Et puis, ils avaient filtré du coup le get class, je crois. Et là, on se dit, bah super. Sauf que Java 9 arrive, on en a parlé.
Ah, décidément.
Et Java 9 rajoute un truc qui s'appelle get module. Et donc, ils n'avaient pas filtré get module, mais de get module, on peut arriver au class loader et hop, c'est reparti. Et du coup, c'était un nouveau chemin juste par la nouvelle version de Java qui amène une nouvelle méthode. Et du coup, au lieu d'avoir un whitelisting qu'ils ne pouvaient pas parce qu'ils voulaient pouvoir appeler toutes les méthodes du bin de manière générale. Et donc, voilà, petit souci à ce niveau-là. Donc, Spring MVC, Spring Cloud, voilà, et puis Sonatype. Enfin, il y a quelques blogs qui expliquent un peu plus en détail les choses. C'est quand même resté assez... plus secret sur la façon d'exploiter, plus secret en tout cas que Log4j. Mais ça a été patché, donc mettez à jour aussi. Et si vous êtes à des vieilles versions, mettez à jour aussi. Spring 3, je ne suis pas sûr qu'ils aient mis à jour au final.
Ah, je ne sais pas s'il y a encore.
En tout cas, de mémoire, ils avaient commencé par Spring 5 et je ne suis pas sûr qu'ils allaient plus dans l'ancienne. Voilà. On en est où?
On a mis un article, c'est une page qui est sur GitHub, en fait, qui s'appelle, dont le thème, c'est une checklist, la Ultimate Personal Security Checklist. Donc, une longue page de bonnes pratiques, catégorisées selon différents thèmes.
Tu l'as lu, tous lu du coup celle-là ou pas?
Non. Alors j'ai scanné, celle-là elle est tellement longue. J'ai scanné un petit peu rapidement ou zoomé sur, quelques catégories qu'on connaît éventuellement un peu mieux. Mais donc toutes les bonnes pratiques autour de, je vais quand même faire la liste en entier de l'authentification, de la navigation sur le net, les bonnes pratiques de sécurité pour les emails, pour les messageries, type messagerie instantanée, etc., sécurisées, les réseaux sociaux, l'accès au réseau, les téléphones mobiles, les ordinateurs personnels, les smart homes, finances personnelles.
Admettez pas c'est quoi, c'est faites pas de smart home là.
Non, mais il y a des choses, je pense que ça va être au niveau... tu sais, t'as ceux, par exemple, qui permettent de... enfin les devices qui t'écoutent ou qui te filment. Donc par exemple, tu peux les désactiver ou essayer de comprendre par exemple les data, les données qui sont collectées, stockées, transmises. Il y a des choses comme ça. Ou aussi par exemple, alors je ne sais plus si il y a celle-ci. Tu sais, des fois on a, alors suivant ce qu'on utilise comme réseau. Wi-Fi à la maison, mais des fois on a des routeurs ou des box qui font différents types de réseaux. Avec un, ouais. Tu peux avoir un réseau exprès pour les invités, etc. Donc ça peut être, tu vois, des choses comme ça. Alors je sais plus si c'était dans email, dans quelle section c'était, mais par exemple sur quand tu utilises des mots de passe, bah évidemment avoir des mots de passe plus longs. Avec différents types de caractères, etc. Enfin, ça couvre vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de sujets, de thèmes. Et c'est une vraie mine d'or et il y en a pas la moitié, je pense, que je fais. Après, des fois, ça va un petit peu au-delà. C'est-à-dire, dans ce qui est navigation web, par exemple, il considérait, alors, il te dit aussi si c'est optionnel, recommandé, etc.
Tes parents ou ton frère, ta sœur qui est pas dans l'informatique peut absolument prendre des morceaux de ça et les appliquer, hein, c'est genre
Ouais, carrément. Et par exemple là sur le web, désactiver WebRTC, mais par exemple pour des trucs de vidéo, conférences, etc., ça peut être critique, oui, et important et nécessaire d'avoir ça. Donc il y a effectivement suivant. Tu vois, ou désactiver le JavaScript. Aujourd'hui, va désactiver le JavaScript. Le web, il n'aura pas du tout la même tête. Ouais. Donc, c'est avancé parce que voilà, il y a peut-être des cas où ça peut être nécessaire, mais la plupart du cas, pas trop, quoi. Donc, mais c'est une vraie mine d'or, ce truc. Je ne sais pas comment ils ont fait pour collecter ça et autant de pratiques. Ouais. Quoi.
Après, ils ont parce que c'est long, donc ils ont un too long didn't read. Qui est leur résumé des choses les plus importantes qui tiennent sur une grosse page.
Ouais.
Et après, ça se plutôt aller consommer temps pour vous rafraîchir les idées. Ah ouais. Un des sujets, peut-être. Je pense que c'est une façon de consommer possible. Après, si vous avez rien à faire, allez-y.
Tu lis tout.
Enfin, si c'est voilà.
T'as vraiment rien à faire. Ou tu veux t'endormir.
Ouais, mais après, non, parce que tu sais comment on est, les geeks, c'est genre.
Ah oui.
Oh, ah, mais il faut absolument que je change tous mes mots de passe maintenant. Et donc là, t'es à 23h30 et tu te lances dans une longue quête de modifier tous tes mots de passe. Et là, c'est pas bien. on en parlait un petit peu hors antenne, comme on disait à l'ancienne. Google, on est toujours dans le contexte de la sécurité. Google, déjà a commencé à distribuer une collection de projets open source, de librairies open source qui sont vérifiées par les équipes de sécurité de Google. Et ça pour les clients Google Cloud en Q3 2022. Voilà. Et donc il y a une liste, je crois, autour de 500, en tout cas pour l'instant, de librairies. Alors ça va vraiment dans tous les langages. Donc il y a une partie qui est en Java, mais il y a plein d'autres plus fondamentales. Enfin, plus bas niveau, on va dire, plutôt. Ce que j'ai pas trouvé, je sais pas,
c'est comment ils sont du coup délivrés. Est-ce que c'est dans un repo Maven différent de Maven Central, etc. Ça,
pense que c'est pour ça qu'il y a écrit Q3 2022. C'est que pour l'instant, c'est pas peut-être pas décidé. Et l'autre
et
chose,
après, c'est pas que Java. Hein, c'est enfin vu que nous on parle souvent quand même de Java. Ça. Mais voilà, il y a des choses pour je sais pas, Ruby, des librairies, Linux, etc. Quoi.
Et de ce que j'ai cru comprendre, c'est en fait les librairies qui sont de toute façon utilisées d'une manière ou d'une autre quelque part dans l'univers Google, et du coup ils font déjà de la sécurité autour de ça.
Ouais.
Voilà. Mais du coup, ce qui est intéressant, parce que Google a cette approche, en tout cas avait monorepo, donc mono version de chaque chose, et après les librairies, enfin l'usage des librairies par d'autres gens est pas forcément monorepo, on ne va pas s'aligner sur tous la même version de Google.
Ouais. Alors après, oui et non, dans le sens où dès qu'on utilise une librairie externe, en fait, on importe son code source et on build son code source en interne. Donc du coup tu restes quand même dans un monorepo. Donc il y a un répertoire qui s'appelle je sais même pas si j'ai le droit de dire le nom, c'est un third party. Donc ça on sait que c'est du code qui n'a pas été en tout cas développé à la base par nous, mais qui est nécessaire pour builder nos projets en interne. Et du coup, on va retrouver... Alors, je sais plus comment ça fonctionne, par contre, pour les versions, parce que je crois que tu... Enfin, tu vas avoir des fois, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je rejette un coup d'œil, mais tu peux avoir des fois, du coup, plusieurs répertoires avec différentes versions de certaines librairies. Du coup, dans le même gros monorepo. Ce qui est un peu bizarre, quoi, ce que tu te dis, une version libre, il sert à quoi si tu copies les différentes versions directement dans un répertoire, mais bon.
Ouais, en tout cas là, de moi, de ce que j'ai vu, donc c'est sur google/OSS Fuzz, il n'y a pas de version aujourd'hui, en fait, affichée, du coup, je sais pas trop, disons que c'est assez neuf pour qu'ils aient pas encore eu ce problème.
Ouais, peut-être.
Je sais pas comment ça va se passer plus tard, en fait. Donc on va à suivre un petit peu comment cette offre évolue. Et du coup, lié à ça, et lié, vous savez, aux annonces autour de la Maison Blanche qui a dit l'open source, il faut que ça soit sécure, avec Log4j, là, qui a réveillé beaucoup de gens. Donc, Google a annoncé la création d'une équipe de maintenance open source qui va se focaliser sur les parties open source critiques et puis, j'imagine, faire des études de sécurité et proposer des patchs à la communauté upstream pour, en gros, contribuer à la maintenance et à l'activité autour de ces projets critiques, mais pas forcément activement regardés en termes de sécurité, etc., etc. Là encore, c'est pas super méga détaillé, donc... Bon, il y a eu un moment d'annonce qui était intéressant, mais voilà, ça évolue dans ce sens-là. Voilà, on va passer à la loi, enfin aux lois, à la société et aux organisations. Apple, alors, donner un peu plus de temps maintenant, je crois, mais avait décidé, il y a des applis qui n'ont pas été mis à jour depuis 3 ans, qui sont peu téléchargées, on va les supprimer de l'App Store, sauf si vous mettez à jour votre truc, parce que on a plein de trucs qui marchouillent, on sait pas, on a rajouté des informations, notamment sur la privacy, quels sont les champs, quelles sont les informations qui sont partagées, etc. Et tout ça, quand on met pas à jour les applications, le développeur n'a pas à mettre à jour ces choses-là. Et du coup, ça a fait réagir et râler, parce qu'après, ça relance le débat fondamental. Qu'est-ce que c'est une appli ? Est-ce qu'une appli finie, mais qui n'a pas été mise à jour, est-ce qu'elle est obsolète par définition ou est-ce qu'elle est OK ? Voilà, donc c'est une question là-dessus. Et puis, je pense que ce n'est pas juste repasser sur Xcode et recliquer et ça va se passer. Bon, déjà, il y a tout le
processus de validation d'Apple. Des fois ça passe, des fois ça passe pas.
Voilà, des fois ça prend du temps. Consistant, donc c'est ça qui a fait rager certains dans le passé et encore aujourd'hui.
Parce que là tu te dis que même juste pour re-releaser la même version exactement, t'es même pas sûr d'y arriver et t'es pas sûr que ça passe l'acceptation.
Ouais.
C'est un peu l'horreur.
Alors là, mon clavier virtuel a écrit « résumation » pour une republication.
Je me suis demandé ce que c'était que ce mot.
Ouais, moi aussi, je me demande. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les règles évoluent. C'est-à-dire que la même appli, le même code n'est peut-être plus forcément valide en 2022 alors qu'il était en 2015. Et je ne parle pas de migration technique, je parle de règles supplémentaires ou des choses comme ça. Donc, c'est peut-être encourager les gens à rester frais, mais du coup, ça... C'est user first, développeur second, voilà. Les duchesses avaient un Slack ouvert à tous, donc aussi aux non-femmes.
Femmes comme aux hommes.
Voilà. Et en fait, elles ont décidé de le fermer, en fait, d'en créer un autre privé. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, il y a eu un peu de l'érosion, et puis ça avait commencé à accélérer un peu ces derniers temps, où en fait, le cœur de la team passait beaucoup de temps à faire des modérations et de la conversation pour essayer de
je de dirais faire même comprendre de l'éducation.
Les gens, l'éducation, voilà. C'est beaucoup plus sur des postes d'hommes que sur des postes de femmes. Alors c'est pas une question de les hommes sont moins bien que les femmes, mais c'est plutôt qu'il va y avoir un volume un peu démesuré. Et surtout leur mission c'était d'encourager les femmes dans l'IT. Et du coup, si on passe 90% de son temps à s'occuper entre guillemets des hommes voilà, il y a peut-être un désalignement au niveau de la mission qui a dû faire lasser. Et puis du coup, la sensation quand elles ont un peu essayé de sonder un peu ça, c'est qu'il y avait que du coup les femmes se sentaient plus avoir l'espace et du coup parlaient moins. Alors c'était pareil dû à des maladresses, au manque de respect, choses comme ça. Mais en tout cas, la dynamique et la sécurité de parole a été perdue.
J'imagine plein d'hommes en train de faire leur mansplaining à deux balles. Ah bah tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Puis après bah t'oses
pour
plus.
Essayer d'aider, ouais.
Bah pour ouais, ouais, ouais. Essayer entre guillemets d'aider et qui du ouais. coup bah toi t'oses plus dire quels sont tes problèmes parce que si c'est pour que quelqu'un te fasse la leçon ou sache mieux que toi, tu sais de manière un peu ouais. sa personne, etc. Si tu veux, t'as plus envie de partager tes problèmes, tes questions, tes inquiétudes, etc. Donc ouais. ça, je comprends bien. Et clairement aussi, l'article le soulignait bien, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure de l'éducation, c'est qu'il y a encore, je pense, pas mal d'éducation à faire du côté des hommes, et des hommes envers les hommes, hein, parce que justement, les femmes sont un peu épuisées de devoir nous expliquer comment être simplement un être humain normal et bienveillant, quoi.
Ouais, je sais pas s'il y a des êtres humains normaux, mais en tout cas bienveillants.
Non, ouais. Non, mais du coup, c'est en plus aussi. Donc là, c'était pas forcément le but de l'article d'expliquer ça peut-être plus en détail. Mais après, enfin, en tout cas, moi, par exemple, quand je vois ça, je me dis ah mince, est-ce que moi aussi, des fois ou dans mes interactions, enfin avec les femmes ou autres minorités, j'ai des biais. J'ai des a priori, etc. Et peut-être que bah, moi aussi, je fais ce genre de choses-là. Et du coup, je me dis, mais alors attends, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ça en arrive jusque-là? Et je ne sais pas. Alors, j'espère que je ne le fais pas, ou pas trop en tout cas, pour ne pas mettre mal à l'aise les femmes. Mais c'est pas évident. Mais simplement déjà d'être attentif, de pas être comment dire, tu sais, quand tu veux un peu imposer tes vues et dire moi je sais,
affirmatif.
Non, soit affirmatif et soit humble déjà dans quand tu as interagi avec les gens, mais pas qu'avec les femmes, hein, de manière ouais. générale, parce que souvent c'est mais non, mais t'as pas fait ça, mais t'aurais dû faire ça, ouais. ça marcherait mieux si tu fais ça, ouais, ok, bon, bah écoute, la prochaine fois je t'en parlerai ouais. pas.
En fait, ta règle, c'est se mettre à la place des autres, en fait.
Ouais, ouais. Est-ce que toi, t'aimerais qu'on te dise ça? Ouais. Bah, rien que de faire cet exercice.
Dans ce contexte-là, c'est pas est-ce que toi, t'aimerais qu'on te dise ça, c'est plutôt.
Non, enfin, quand je dis.
Essaie de te projeter dans le contexte de cette personne qui n'est pas ton ouais. contexte à toi et comment ça peut être perçu. En
fait. Ouais. ouais. Comment tu le reçois.
Voilà, en
donc
tout cas.
Donc, c'est triste. Ouais. Après, donc, elles ont rouvert un Slack.
Fermé.
Enfin, fermé, privé, ouais. avec que des femmes.
Sur invite, ouais.
Sur invitation. Donc pour toutes nos auditrices, donc le Slack public est encore ouvert et ou en tout cas si vu que vous connaissez certainement des membres des équipes qui organisent les duchesses, n'hésitez pas à les rejoindre pour dire enfin les contacter plutôt justement pour pouvoir rejoindre ce nouveau Slack privé et du coup de retrouver cet espace plus sécurisé et de confiance et bienveillant. Et alors, je ne sais plus si elles ont dit qu'il serait fermé, du coup, le Slack public, je ne sais plus.
Je ne sais plus, mais en tout cas, il y aura toujours des événements mixtes. C'est juste
oui.
cet endroit spécial dire, ouais. qui était là pour justement ouais. Pouvoir échanger dans la sécurité. En fait, voilà. il s'est recentré, en fait, tout simplement. Mm-hmm. Voilà. Donc en parlant de bienveillance, on va parler, alors c'est un vieil article, mais ça parle, ouais, il a quel âge, il a, parce que c'est quand même assez sensible au temps, ces choses-là. 17 mars, oui, donc nous sommes en mai, nous sommes mi-mai, et donc c'est un qui explique l'impact de la guerre en Ukraine sur la technologie russe. En fait, c'est une fragilisation, en fait, parce qu'il y avait quand même une grosse dépendance. Alors déjà technologique, il me semble bien qu'on en avait parlé, des composants fondamentaux qui sont en fait pas produits en Russie et du coup, qui sont plutôt explicitement de sources européennes et américaines et du coup qui ne sont plus accessibles. Il y a une fuite des cerveaux qui avait commencé déjà depuis 2014, peut-être parce que voilà, des gens dans l'informatique. dans l'ouverture un peu citoyen du monde, on va dire, se sentait moins bien, voilà, dans le régime existant. Et du coup, depuis la Crimée, donc 2014 et la Crimée, il y avait une fuite, mais là, ça a accéléré. Et donc, ils estimaient un manque de développeurs de quasi 1 million, enfin entre 1,5 à 1 million. Kaspersky, qui est les sociétés russes de la tech, on en connaît, hein, by John Brains aussi d'ailleurs. Enfin, en tout cas, qui a beaucoup de. C'est russe ou c'est. Non.
Non, bah, ils sont basés à. Mince. Est-ce que c'est pareil, eux aussi ont fermé leur bureau en Russie et ont aidé leurs collègues russes
à. Prague.
Prague, voilà.
Prague-Saint-Pétersbourg.
C'est ça. Okay. C'était Prague-Saint-Pétersbourg, principalement. Et donc aider leurs employés, leurs collègues à aller ailleurs, en tout cas qu'en Russie.
Ouais. Et du coup, Kaspersky, qui est une boîte russe, du coup avec des difficultés de paiement à ses clients, de pouvoir échanger, etc. Du coup, 80% de leur chiffre d'affaires est aux États-Unis, enfin, et en dehors de la Russie, pardon. Et du coup, ouais, y a des doutes sur la viabilité du coup de leur modèle économique. Mmh. On a vu Yandex, qui a un moteur pour le coup centré sur la Russie, donc on pourrait estimer qu'il est plutôt protégé avec son marché local, mais le CEO a quand même démissionné. Il y a des problèmes de défaut de paiement, parce que finalement, pouvoir payer un fournisseur aux États-Unis, en Europe, c'est compliqué quand y a pas mal de banques qui sont bloquées. Par exemple, VK, qui avait 400 millions de dollars d'endettement et savait pas trop comment ils allaient pouvoir payer, du coup, possible défaut de paiement. Et il parlait d'un raid de disques durs pour la consommation locale, donc aller piquer les disques durs du coup des entreprises qui sont parties du secteur russe pour aller pallier au manque physique de composants. Et il y a, on voit même au-delà de la tech, hein, des gens comme là, je crois que c'est Renault, le dernier en date, qui a annoncé son départ de Russie.
Google, là ouais. Par exemple, là, ces derniers jours, là, c'est une nouvelle toute fraîche qui est passée aux infos. Alors, comme Google permet de voir que le public russe puisse voir les informations non propagande du Kremlin et de Poutine. Du coup, le Kremlin a décidé.
Qui, du coup, tombe sous la loi russe qui dit
qu'on n'a pas le droit
de guerre.
On n'a pas le droit de dire guerre. Dire tout ça. Donc, la liberté d'information et de la parole est muselée par le Kremlin. Et du coup, là, ils ont saisi tous les avoirs, comptes en banque, etc., de Google en Russie. Ce qui veut dire que Google Russie est obligé de fermer parce qu'ils peuvent même pas payer les salaires des employés, etc. Donc la présence sur le territoire russe, en tout cas de Google, va disparaître, même si évidemment tous les services comme YouTube, le Google Search, etc. Sont encore disponibles pour le peuple russe. Enfin, si en tout cas ils sont pas filtrés par le Kremlin, je ne sais trop comment.
Ouais. Ok. Sur ces bonnes paroles.
Sans transition.
C'est l'outil de l'épisode. Et c'est un petit truc que j'avais pas vraiment réalisé, mais en fait, dans la configuration Git, vous savez, où les Git config, on peut les mettre sur chaque repository. Et du coup, à chaque fois qu'on a un autre repository, il faut aller copier les infos qu'on veut en commun. Ou alors, on peut la mettre, par exemple, dans son home directory, un point Git config. Et le problème, c'est que des fois, en fonction des environnements, peut-être que vous séparez votre travail sur Git pro du Git perso ou open source différent d'autres choses. Et du coup, on peut mettre des conditions, en fait, dans ce fameux Git config. Il y a des include if, et notamment, une des conditions possibles, c'est include if un répertoire, en fait. Donc, si c'est un répertoire...
dans tel
travail, projet, à ce moment-là, utilise la config pointe vers injecte un git config qui est un peu plus spécifique, une partie qui est un peu plus spécifique à mon travail, et puis voilà, et qui vont se composer les uns les autres. Et Arnaud disait qu'il utilisait pas mal ça pour séparer justement le travail de l'open source.
Ouais, c'est pas bête.
Et donc, j'avais pas pensé, parce que c'est vrai que moi, des fois, j'ai un peu un mix de, il y a les mauvaises adresses qui se retrouvent dans les git repo, et puis c'est trop tard, parce que tu veux pas retaper le master, enfin, réécrire la branche, etc. Pas. Ouais.
T'as plus le droit de dire master, fais gaffe.
C'est pour ça que j'ai hésité à dire main après, mais bon, bref. La branche sur laquelle on travaille, donc, la branche commune à d'autres. Ouais. Voilà, et une rubrique débutant, on l'a pas fait depuis très longtemps. Alors si nous avons des nouveaux auditeurs, on a là on la réactive, une rubrique qui était rappeler les petits fondamentaux que après quelques années d'expérience, on connaît ou on est censé connaître, mais qui aide les débutants.
On oublie.
Voilà, et donc aujourd'hui, nous allons parler de la comparaison des URL en Java. Alors, qu'est-ce qui fait que deux URL sont égales Guillaume ? Intuitivement, tu dirais quoi ?
Ah, bah alors, du coup, il faut que je fasse avec l'erreur. Bah,
si toi, tu le connais aujourd'hui,
Je me dis, c'est le même hostname, le même chemin d'URL, etc., bien sûr.
Voilà. C'est pas comme ça que ça a été défini dans... Alors, je sais pas quand est-ce la classe URL est arrivée en Java, mais peut-être la première version.
Ouais, c'est début,
à l'époque, ça restait quand même assez nouveau. Et donc, les URL sont considérées égales si leurs IP sont égales. C'est vrai qu'on était dans un monde assez massivement statique en termes d'IP. La notion des serveurs à partout dans le monde avec du Edge et machin, c'était pas. Et donc, déjà, première étape de performance. Quand on compare des URL, eh bien, ça fait un lookup.
Un lookup réseau.
Donc là, ça peut être long, DNS lookup au sens. C'est-à-dire que ça ne va pas aller appeler l'URL, mais ça va faire un lookup de ton DNS pour savoir c'est quoi l'IP, pour pouvoir savoir si c'est constant ou pas. Et puis, du coup, l'impact, parce que un objet est égal et le hashcode qui est souvent dérivé de est très corrélé à l'implémentation égale des objets, ça veut dire que ça a des impacts intéressants sur les classes qui s'appuient sur ce fameux HMAP et égal, notamment les sets ou les maps. Donc, si on a une map, si on met des URL dans un set et on met l'URL 123.com et puis après 456.com et 123.com pointe sur l'IP 1 et 456 sur l'IP 2, donc ça fait deux entrées. Mettons que c'est la même entrée, du coup 1, 2, 3 et 4, 5, 6 sont considérés comme le même objet, du coup quand on rajoute 4, 5, 6 en fait on rajoute pas dans le set parce qu'il y en a que 1, 2, 3, mais ça peut évoluer dans la vie de la vie de l'objet, puisque peut-être le DNS il a expiré, on va aller le relancer, donc en fait deux objets qui étaient différents dans le set sont maintenant communs et les algos ils sont pas... Il s'appuie sur le fait que deux objets sont égaux ou ne sont pas égaux. C'est pas, y a pas de variabilité temporelle, en fait. En tout cas, je pense que c'est pas prévu dans les algos de set et de map. Donc, il peut y avoir des impacts assez subtils et compliqués. D'ailleurs, info intéressante dans une rubrique débutant. Voilà, faites attention quand vous écrivez vos égales et hashcode. Notamment parce que nous, on le voit beaucoup, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, il y a un bug dans Hibernate, on rajoute ça et en fait, ça disparaît. » c'est pas stocké dans la base de données. En fait, c'est souvent tout simplement parce que votre implémentation de equals et hashcode, surtout equals, sont incorrectes. Et du coup, effectivement, si on estime que l'objet, il est déjà là, mais on va pas le réécrire dans la base de données. Mais en fait, c'est pas le même objet pour vous, puisque c'est deux instances. Mais en fait, votre implémentation ECAL font que ce sont deux mêmes objets. Donc en fait, vous êtes en rupture de votre contrat set ou map, les clés de map, par exemple. Et ça, c'est un cas de bug hyper classique dans Hibernate.
Et donc là, on avait mis comme lien le tweet, le thread, le fil qui décrit tout ça. Et j'ai vu là, dans les réponses, il y a deux réponses de Kevin Bourillon, qui est quelqu'un qui travaille chez Google sur toutes les librairies Java. Donc c'est un peu une référence aussi chez nous. Et aussi Bob Lee.
Mais il travaille toujours chez... Il n'est pas chez Startup Hardware.
Peut-être qu'il a bougé. En tout cas, historiquement, il travaillait... il avait travaillé sur Guava, AutoValue, etc. Et maintenant, attends, il fait quoi ? T'as peut-être raison, je dis peut-être une bêtise. enfin en tout cas ça, l'expérience Java reste, même s'il change de crèmerie. Et il y avait aussi Bob Lee, donc Bob Lee qui avait fait, qu'est-ce qu'il avait fait, qui travaillait chez Square aussi plus récemment, mais je crois que lui aussi il a bougé, et qui conseillait, et Bob Lee d'ailleurs qui confirmait que la classe URL avait dû être ajoutée il y a 27 ans à l'époque de Hawk, donc vraiment aux premières étapes de Java avant même que ce soit appelé Java. Et les deux disaient utilisez pas jamais URL, utilisez URI, qui est une classe URI, qui elle doit faire les choses, alors qu'il y a quand même 20 ans également, c'est une vieille classe, mais qui fait les choses de manière plus correcte. Les URL, c'est juste une forme spécifique d'URI. Mais en tout cas, en utilisant URI, on aura des résultats moins surprenants que ce qu'on vient de décrire.
Voilà. Du coup, vous pouvez réutiliser le décompileur pour voir l'implémentation du code écalé, HCode. Là, c'est votre, c'est votre travail du soir. Allez, hop.
Yes, au boulot.
Voilà. Voilà, il y a de plus en plus de conférences, mais on n'a pas fait la liste. Très désolé, jour des conférences. Je crois que j'avais vu des choses autour du Jug Summer Camp, donc qui est à La Rochelle. Donc, si ça vous intéresse, c'est en général autour de septembre, au tout début septembre. Donc, allez voir.
Il y a Vox Days Luxembourg, s'il n'y a pas longtemps, en juin.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a
d'autre? Il y a Devox Belgique qui est vers octobre.
Là, on a encore le temps.
Ouais, ça sert à... Attention, ça a avancé de quelques semaines rapport à l'année d'avant.
Octobre, novembre, tout ça, c'est encore loin. Pas encore les vacances d'été.
C'est vrai. Et figurez-vous que dans ma boîte à mail se trouve un crowdcast de José Pomard. Merci encore, José, de jouer le jeu et de faire ces très beaux crowdcasts. Et il nous parle de la conférence Java Days le 22 juin 2022 à Paris, dans l'Ouest parisien. Donc, dépêchez-vous de vous y inscrire. Et on écoute José.
Salut les casse-codeurs, salut à toutes, salut à tous. C'est José au bout du fil. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un événement que l'on organise avec le Paris Jug le 22 juin prochain à Paris et que nous avons appelé le Paris Jug Java Day. Alors, il s'agit d'un événement d'une journée en français. On a réservé un super espace dans la verdure, ombragé s'il y a du soleil, où on pourra faire les pauses café, le déjeuner sous les arbres. Ça va être très sympa. Il s'agit du centre de congrès du jardin d'acclimatation. C'est à 10 minutes à pied du métro Sablon, donc super facile de s'y rendre. On a bien sûr un amphi pour les présentations, façon salle de cinéma, et des speakers qui vont venir nous parler de Java et de ses nouveautés, avec au programme Jean-Michel Doudou, Rémi Forax, Jean-Philippe Bampel, Brice Duteil, Cédric Champeau, Charles Sabourdin et Hervé Boutemi, pour nous parler de Java, de Valhalla, de performance, de sécurité, de Micronautes et de Maven 5. On a mis le programme précis avec les abstracts sur notre site javaday.parisjug.org. On aura également un espace de lab dans lequel on est en train d'évaluer si on va pouvoir organiser un hack commit push en parallèle. Alors un hack commit push, c'est nos réunions en format HackerGarten, en zone lab, avec pour objectif de contribuer sur des projets open source. Donc si ça vous intéresse, contactez-nous, on pourra vous donner plus d'infos et vous mettre en relation avec les gens qui organisent cette partie de la journée. On a ouvert les inscriptions il y a quelques temps déjà, il nous reste encore de la place. Donc pour vous inscrire et pour tous les détails, rendez-vous sur notre site javaday.parisjug.org. On espère vous voir nombreux le 22 juin prochain au jardin d'acclimatation. Merci aux casse-codeurs, merci à toutes et merci à tous.
Voilà, sur ce, on va vous laisser. S'il y a des sujets que vous voulez voir adressés par les casse-codeurs ou des news que vous voyez, n'hésitez pas à faire un @ les casse-codeurs.
À nous les pousser.
Sur Twitter et ça nous aidera.
Avec une petite description pour voir ce qui.
Comme ça, ça nous permet d'aller un petit peu plus vite. News. Et puis, vous pouvez toujours. Donc, ça, c'est la version rapide. La version un peu plus longue, c'est vous pouvez aller faire un crowdcast. Donc, vous allez sur crowdcast, donc crowd comme une foule en français, en anglais.
En anglais.
Et cast comme cast en anglais aussi.
Comme casse-toi. Comme casse-toi. Voilà.
En full casse. Bref.
Mais je crois que le lien il y est aussi à partir de la page d'accueil, non?
Oui.
Pour le retrouver, parce que là,
les sauvages, voilà, c'est dans le petit bannou noir tout en haut. Donc, c'est le troisième, enfin, c'est le entre le concept et soutenir les cascoleurs. Voilà. Donc, merci de nous avoir suivis. On va essayer de vous concocter des interviews. Là, c'est pareil, il faut qu'on trouve le temps de s'y mettre. Hein. On a des idées, mais il faut exécuter. Exécuter.
Yes.
Voilà. Voilà, merci à tous et puis à la prochaine fois.
À très bientôt. Ciao.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.